les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Un jeune premier italien, napolitain, une idole. Et puis une rencontre avec un scénariste. La carrière du comédien ne s'interrompt pas, non, mais s'enrichit. Le comédien devient aussi un très grand metteur en scène de cinéma. Les enfants nous regardent, Ciuccia, Le voleur de bicyclette, Miracle à Milan, Umberto D, et plus tard, Le jardin des Finzi Contini. Vittorio De Sica, populaire jusqu'au bout. Mardi du cinéma, Vittorio De Sica par Francesca Isidori, réalisation Claude Giovannetti, première diffusion sur France Culture le 12 mai 1992.
Je voulais appeler mes films pas Chouchat, Voleur de bicyclette, Miracle à Milan, Umberto D et tout ça. Et je voulais donner un titre unique, égoïsme numéro 1, égoïsme numéro 2, égoïsme numéro 3. Et comme ça, je voulais faire. Et je suis resté fidèle à mon idéal, la solidarité humaine qui manque.
Vittorio De Sica, une émission de Francesca Isidori.
Avec une femme, il était très, très bien élevé surtout. Et pour moi, c'est une chose très importante, le respect et l'éducation. C'est pour ça qu'on a pu vivre 34 ans. Parce que si ça s'en va, c'est fini. Pour moi, hein.
Ricordo una scena di notte in un vicolo napoletano. Allora, la scena era notturna.
Je me rappelle d'une scène tournée la nuit dans une petite ruelle à Naples.
Tutti sono affacciati ai balconi.
Ah, évidemment, tout le monde est penché aux fenêtres, au balcon, les lumières allumées. Tout le monde regarde des cigares qui tournent.
Silenzio, perché deve riprendere Silvana Mangano, che disperata.
De Sica a besoin quand même que ça se passe la nuit, avec l'obscurité. Silvana Mangano, qui tourne avec lui, est désespérée. Alors De Sica, avec le haut-parleur, commence à crier. S'il vous plaît, tout le monde rentre, tout le monde éteint les lumières, s'il vous plaît. Une minute plus tard, c'est le noir total, tout le monde s'est renfermé chez soi. La scène est tournée. À ce moment-là, donc, De Sica intervient avec le haut-parleur en disant « Allez, vous pouvez sortir !» Et tout le monde sort. C'est à ce moment que De Sica dit « Grazie !» Et tout le monde en chœur « Prego !»
Je me rappelle que j'ai rencontré un jour Robert Rossellini, qui était assis sur l'escalier d'une maison. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu fais là? J'attends une dame qui me doit donner l'argent, une productrice. Il me doit l'argent pour faire un film. Sur qui? Oh, sur quoi? Oh, un film sur un prêtre. Un prêtre dans la période, la dernière période allemande ici, de l'occupation allemande à Rome. Et toi, je ferai peut-être, j'espère, de trouver l'argent pour faire un film sur des gosses, qui, le film s'appellera peut-être Chouchat. Alors, et comme ça est né le néoréalisme italien dans une rue sur l'escalier d'une maison d'une dame très riche. Et nous avons fait ces films de la pauvreté, de l'absence absolue d'aide, de solidarité humaine. Lui, Rome, ville ouverte, et moi, Chouchat.
Thank you.
Maria Mercader.
Je l'ai connu, oui, en 1939. Alors, il était le jeune premier, comme ça, des films, des petites comédies, très, très gays, Monsieur Comte Max, je ne sais pas quoi, tous ces films qu'il a fait, mais il était comme, pas plus. Après, il a commencé à faire le metteur en scène, et moi, je l'ai vraiment connu au quatrième film, avec Garibaldi al convento, que c'était 1941. Et là, c'était quand je l'ai connu vraiment.
Oui, c'est-à-dire que jusque dans les années 30-40, il était à la fois ce jeune premier, très charmeur, très
ça,
séduisant. Oui, vous ne l'avez pas connu, mais quand vous disiez pas oui, plus, oui. Vous voulez dire que...
Oui.
Mais il était quand même une sorte d'idole pour le public, surtout féminin, italien.
Ça, toujours. Heureusement que 1940, il a connu moi. Et tout de suite, il a connu M. Zavattini, qui l'a tourné la tête, parce qu'il a commencé à lui faire faire Les enfants nous regardent, Chouchou, et pour la bicyclette. Et comme ça, la vie s'est changée, heureusement.
Donc, c'est cette rencontre avec Cesare Zavattini, qui a été son scénariste, son collaborateur, pendant presque 30 ans.
Toute la vie.
Toute la carrière cinématographique, pratiquement, sauf
pas
trois films.
Pas fin Secondini, mais presque tout. Le mieux de Les enfants nous regardent, Chouchou, Voleur de bicyclette, Umberto D, Les toits, après tous les films Sophia Loren, ça c'était déjà une autre chose.
Plus commerciaux, c'est-à-dire.
Voilà, les succès commerciaux, d'argent, voilà. Mais sa vie, après Zavattini, l'a repris encore. Ils ont encore travaillé ensemble jusqu'à la fin.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirare.
Il y a un aspect de De Sica qu'on connaît peut-être un peu moins en France, c'est le De Sica acteur des comédies un peu légères des années 30 en Italie.
Mais il était déjà réputé pour ses comédies parce que Mario Camerini est un des cinéastes italiens de l'époque, disons, fasciste, qui était connu en France. Et des films comme Les hommes qu'elle mufle, Il signant Max, Grand magasin, je crois qu'étaient sortis. En tout cas, on les connaissait, on les avait vus dans les festivals. Et De Sica, on savait donc qu'il avait un côté, disons, jeune premier, pour suivre un terme de l'époque, très séduisant. Il ne faut pas oublier qu'il est d'origine napolitaine, bon, et qu'en plus il avait un jeu très, très intense. Surtout, il y a une chose moi, qui m'est très chère, c'est une anecdote, c'est lui qui chante dans Les hommes qu'elle mufle, par l'ami d'amour et Mario, qui était devenu chez nous, chanson de Bixio, le chaland qui passe, chanté par Lise Gotti, par Tino Rossi et tout. Donc moi j'étais un peu bercé par ça dans mon enfance, sans trop savoir à quoi ça se raccordait. Et mes premières rencontres avec Vittorio De Sica, c'est tout simplement sous l'occupation, parce qu'on a montré en France pendant l'occupation Rose écarlate, qui était d'ailleurs un film avec René Saint-Cyr, actrice française qui jouait avec De Sica, et Teresa Venerdi, qui était devenue chez nous Mademoiselle Vendredi, ou autre De Sica et Adriana Benetti. Il y avait Anna Magnani, dont on a dit après, quand on a vu Rome ville ouverte de Rossellini, mais c'était une actrice inconnue, et la Magnani était là-dedans déjà, très Magnani. Donc, si vous voulez, je trouve que ça, c'est très important. Et quand on revoit aujourd'hui, grâce à des cassettes vidéo qui viennent d'être éditées chez Antares, les films de Camerini, on en voit deux, ce sont vraiment des comédies extrêmement merveilleuses. En plus de ça, tournées presque entièrement en décor naturel avant le néo-réalisme. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important qui doit être souligné. Effectivement, les premiers films qu'il a fait comme réalisateur, qui étaient des comédies, aussi des comédies de collège, comme dit Madame De Sica Maria Mercader, puisqu'elle a joué dans une qui s'appelle Un Garibaldi au couvent, étaient des comédies un peu frêles, mais il était aussi acteur tout en étant réalisateur. Donc je pense que les deux carrières sont inséparables, puisque par la suite, après la grande période néo-réaliste, De Sica a été réalisateur et acteur très très souvent dans des films d'autres réalisateurs. Mais ça, c'est pour moi, c'est important.
Le metteur en scène italien Mario Camerini a voulu que je fasse un film avec lui. Tous les producteurs étaient contre, parce qu'on disait que j'étais très maigre, et mon nez sortait un peu plus fortement que maintenant. Et alors, mais il est laid, il n'est pas un joli garçon. Non, il faut... C'était l'époque des grands beaux, Rodolfo Valentino et Manenti. Il y avait des jeunes acteurs, des jeunes premiers, très beaux. Alors, j'étais un peu pas beau. Et alors, il ne voulait pas me donner ce rôle, la production. Mais il a insisté et je fais ce rôle. De le chauffeur, un chauffeur qui aime une petite fille et qui s'appelle Les Hommes qu'elle mufle. Et je chantais pour la première fois dans ma vie, je chantais Le chaland qui passe. Et après, je fais How Do You Do, Mr. Brown, et encore continuer à me faire de films en chantant, mais c'est de si qu'elle chante. À la fin, je suis opposé, et j'ai dit non, je ne fais plus de films, et je ne veux plus chanter. Je suis un acteur, je ne suis pas un chanteur.
Mariuccio. Mariuccio, perché non ci sposiamo? Lo sai che ti voglio bene. Però basta con la profumeria, eh? Sempre in casa. A prepararci il risotto.
Jacques Siclier, vous citiez ce film de Camerini, Les Hommes qu'elle mufle, qui est un film de 1932, et je relisais dernièrement le livre de Satyajit Ray, qui parle beaucoup du néo-réalisme italien en général, mais aussi de De Sica en particulier. Et il préfère par exemple Choucha à Rome, ville ouverte, et notamment à propos de cette comédie donc de Camerini, Les Hommes qu'elle mufle, où on voit un De Sica séducteur, charmeur, un peu cabotin, mais au fond brave garçon. Et Satyajit Ray souligne que déjà dans ces comédies, il y a quelque chose qui deviendra monnaie courante avec le néo-réalisme, mais que c'est déjà présent dans ces films un peu légers, des bleuettes, mais au fond pas si mièvre que ça.
Non, ça n'est pas si mièvre que ça. Et par exemple, Il Signor Max est un film très critique sur la société italienne mondaine de l'époque, évidemment aussi critique qu'on pouvait l'être à l'époque fasciste, mais tout de même assez acéré. Et le néo-réalisme, c'est vrai qu'officiellement il est né à partir d'Ossessione et de Visconti et la grande période d'après-guerre, mais le néo-réalisme à ce moment-là était un néo-réalisme à la fois dans les façons de tourner et dans les sujets, disons, sociaux. Mais ça existait aussi dans les années 30, il y a beaucoup de films, et Camerini est très intéressant. On l'a souvent comparé à René Clair, et ça n'est pas faux, pour le côté comédie, montrer le petit peuple, ce qui ne se faisait pas à l'époque du cinéma des téléphones blancs, et il tournait beaucoup en décor naturel. Blasetti aussi a tourné... un film sur Garibaldi en décor naturel. Donc ça, c'est pas une invention du néo-réalisme. Je pense qu'il y a des choses qui ont germé et qui finalement se sont cristallisées après la libération de l'Italie, la fin de la guerre, la chute du fascisme, enfin toute l'évolution historique. Et pour De Sica, c'est très important. Moi, j'aurais tendance un peu à être comme... excusez-moi de la... c'est un peu vaniteux de ma part, à partager l'opinion de Satya Jitray. Je pense que Chouchia est un film peut-être plus intéressant que Rome ville ouverte, peut-être parce qu'on l'a moins vu et qu'on peut le redécouvrir aujourd'hui, y voir des choses qu'on n'avait pas tellement vues à l'époque. Rome ville ouverte a tout de même été portée par son succès au Festival de Cannes, par le fait aussi qu'il y a ces immenses acteurs qui étaient Magnani, qui étaient Aldo Fabrizi. Mais quand on revoit le film aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est assez mal construit, qu'il y a, mais c'est, ça tient à l'époque aussi, aux conditions de tournage, qu'il y a une espèce de manichéisme entre la résistance, le prêtre et tout ça, alors que dans Chouchia, c'est vraiment la réalité brute. C'est très étonnant, c'est un film extrêmement émouvant sur ces enfants perdus là qui rêvent d'avoir un cheval, qui veulent se sortir de là, puis qui sont obligés de faire des petites combines. Et je pense que ce film a inspiré un autre très beau film du néo-réalisme qui est sous le soleil de Rome, c'est ça ?
Oui.
De Renato Castellani qui est sur le thème de l'enfance, etc. De même que ça a pu inspirer aussi d'une certaine manière Comencini dans ses premiers films.
Ah ma c'è, è arrivata sta roba. Ma che più di una settimana sto fregnone mi dice tumoro, tanto si fanno stare i scarti. When you bring?
Tomorrow.
Te e tuo nonno. Oh, questi scusano, sa. A Pasquato ho comprato sto chiaro.
No, niente da fare, sono rugni, mica si fanno la scusa.
E ma cosa mi hanno digne con me i coperti? Ma lasci sta, qualche altro si comprerà. No,
ma... oh, le mot Chouchia, et bon, on l'a appris d'ailleurs quand on a vu le film, est une abréviation d'une déformation italienne, romaine, je ne sais pas ça, oui, de shoe shine, c'est-à-dire cirer les chaussures, c'est en rapport avec le fait que les Américains se trouvaient à ce moment-là en Italie en libérateur, mais aussi d'une certaine manière en occupant, puisqu'ils apportaient l'argent, les cigarettes, bon, mais aussi l'occasion de trafic et de débauche. C'est toute l'histoire de ces pays délivrés après la guerre, sortant d'un chaos phénoménal, encore plongé dans le chaos, et où les gens se trouvent obligés de survivre. Et c'est l'histoire de deux enfants qui veulent s'acheter un cheval, qui cirent les chaussures et qui font des petits... des petites combines pour avoir l'argent, pour avoir ce cheval, et il leur arrive évidemment, ils sont mêlés au milieu des trafiquants, il leur arrive des choses qui ne sont pas du tout là des bleuettes. Et c'est pour moi un des témoignages les plus étonnants sur l'Italie d'après-guerre, avec, dans un autre ordre d'idée, puisqu'il s'agit plus d'enfants, les films de De Santis. Et évidemment, tout de même, Rossellini, qu'on ne peut pas oublier, surtout pour Païsa. Je crois que Païsa est beaucoup plus riche que Rome ville ouverte. Mais Chouchia marque, à mon avis, une date très importante. C'est à mettre vraiment sur le même plan que Païsa, que les deux Santis. Donc c'est le moment où De Sica, qui est tout de même à ce moment-là un réalisateur de comédie, un acteur de comédie... d'un seul coup, prend à bras le corps la réalité, la traite, la réfléchit dessus, et ça va durer quand même quelques années, parce qu'il a marqué énormément l'époque dite néo-réaliste.
Chouchia est le résultat d'un état de suffoquement de l'esprit, de l'art, de tous nos artistes. Pendant le fascisme, nous avons fait des comédies, des féries, des comédies théâtrales, et nous avions besoin d'exprimer ce désir de voir la vie, la vérité, de dire la vérité sur les hommes, sur les rapports humains. Chouchia, après la domination allemande, est le résultat d'un an de passion, d'un an de souffrance. J'ai suivi ces gosses dans la rue et j'ai vu réalistiquement, comme un reporter, j'ai fait du reportage. J'ai vu ces gosses, j'ai demandé à mon ami Zavattini de m'écrire un sujet à propos de cette histoire de gosses que je suivis pendant un an. J'ai écouté leurs discours, j'ai vu ce petit crime, ce petit vol de masques anti-gaz. Il y a dedans ce film une passion. Voilà Choucha sur un plan réalistique, porté sur un plan lyrique, poétique. C'est un besoin de porter le réalisme tragique de Choucha sur un plan hautement humain. Le petit gosse de Choucha sont finis dans la prison. Et ça est la souffrance et la douleur d'un homme comme Zavattini et moi. J'ai essayé de porter ce film dans le domaine magique de l'art.
A disposizione per indagini di polizia.
Li mandiamo in prima sezione appena il dottore avrà passato la visita.
Sì, sì.
Volevo segnalarvi che questa mattina è venuta una commissione di genitori di reclusi.
Commissione? A questo punto siamo arrivati. E cosa hanno minacciato? Di scioperare?
No, signor direttore, sono venuti per sollecitare le inchieste. Questi ragazzi sono in carcere da mesi.
E di chi è la colpa? Se voi leggeste le statistiche sapreste che in confronto al 1936 oggi i reati sono aumentati del 60%. I magistrati sono oberati di lavoro.
Capisco, ma dovrebbero tener conto, trattandosi di ragazzi.
Ragazzi. Rapina a mano armata, furto con scasso, borseggio, lenocinio. Lasciamo senza frutta, Bartoli, per castigarli.
E se ci fosse la frutta?
Vedete, caro Bartoli, voi, anzi, lei, quando si accorgerà che questo è un carcere e non un asilo d'infanzia? Lo dico per voi, con questi principi resterete sempre un assistente. Non c'è male. Discreto.
Riposo!
Aldo Tassone.
Choucha, par exemple, a été à la base de beaucoup de films indiens. Salam Bombay, par exemple, un film que nous avons admiré il y a 2 ans, première œuvre d'une cinéaste indienne femme. Bon, c'est évident qu'il doit énormément à ce film. Donc, l'importance qu'a eu probablement dans le Mexique, Los Olvidados. Qu'est-ce que c'est Los Olvidados sinon un Choucha à la... Bon, c'est pas la même chose. Il y a peut-être plus de cruauté chez Buñuel, mais parce que Buñuel c'est un surréaliste, c'est un espagnol, un aragonais. Et puis, Mexico c'est peut-être un peu pire que Rome en 46. Mais disons, il faut se placer dans des différences entre du monde, et je crois que dans certains pays, l'importance de De Sica est beaucoup plus grande que celle de Rossellini. C'est incroyable. Nous pensons toujours être au centre de l'univers, et on pense que notre optique sur le cinéma italien vu d'ici de Paris, de la hauteur de la maison de la radio, c'est celle-là. Alors les grands sont Visconti, Antonioni, Fellini et Rossellini. Et puis on s'aperçoit que de notre point de vue, peut-être du Japon, de l'Inde ou de Mexique, les grands sont aussi Castellani, formidable acteur de comédie, sont aussi des Sica, par exemple, et peut-être Camerini, pourquoi pas. Donc, il faut faire un effort, il faudrait revoir les films, voilà, revoir les films, et on s'apercevrait que la force la force tragique et la tendresse de cet auteur dans ses films meilleurs, qui sont au moins 7 ou 8, est telle que... Mais il y a même un film sur Naples, L'or de Naples, en 54, qui est un bijou, mais on ne le voit jamais. C'est un essai anthropologique sur la sensibilité des Napolitains, qui n'a rien de... où il fait d'ailleurs un numéro d'acteur formidable en jouant aux cartes avec un gamin qui est plus malin que lui. Il fait un mauvais compte qui devrait avoir de l'argent. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus d'argent, et l'autre fait semblant de jouer des millions et des millions et des millions. Et ça, la partie n'a jamais une fin, parce que ça fait partie du jeu. Ce duo est prodigieux.
Federico, il conte.
Buongiorno, eccellenza.
Ciao, Federico. Non sempre si può avere un 3 a portata di mano, caro barone, che...
Scopa!
Mannaggia, morto, mannaggia.
Eccellenza, devo pigliare un 3 e lasciare questa scopa.
Ma l'avevi cavato tu, il re? Potevo sapere che tu tieni la fabbrica dei re. Ma che sfacciata fortuna. vergognoso.
Io so giocare.
E io no. Oh, badate come parlate, che sono un inetto io.
Ah, giocando.
E giochiamo. E giochiamo.
Scopa!
E con questo. Ma che mi credete di essere? Buffone! Voi a me non mi fate impressione. Al palazzo e alla tenuta aggiungo... Anche la giacca, avanti!
Hors de Naples n'est pas le film sur Naples qui usuel qui vous connaissez à travers les chansons, la mer et les belles filles et les belles chansons. Non, c'est la Naples intime, la Naples secrète, la Naples de petites ruettes, non? De la Naples intime, comme je vous ai dit avant. La Naples folle, sage, tragique, drôle. La Naples si compliquée et si mystérieuse que moi, napolitain, après le film, je n'ai pas encore bien compris.
Le film ou Naples?
Naples. Naples. Parce que Naples ne sera jamais révélée. Par exemple, dans mon film, j'ai cherché de noter les signes de ce peuple qui est grotesque, le grotesque absolu, que la tragédie se mélange toujours avec la farce. Et entre la farce, il y a toujours cette présence continuelle de la mort. Et c'est étrange, c'est un peu un peuple comme le peuple russe, je crois. Mais c'est un film étrange que vous verrez. Et c'est un film, cette fois-là, un peu différent des autres que j'ai fait, qui étaient faits avec des personnages universels. Le personnage, par exemple, de voleur de bicyclette, était un personnage que nous pouvons très bien rencontrer à Paris, ou à Londres, ou à Chicago. Le personnage du vieux pensionnaire d'Umberto D, nous le pouvons rencontrer. Mais les personnages napolitains dans mon hors de Naples se rencontrent seulement à Naples.
Et est-ce que ce sont des souvenirs d'enfance que vous nous racontez là?
L'enfance, j'ai fait mes premières études à Naples. J'étais tout petit, je venais de mon pays de naissance qui est Sora dalla Ciociaria. Mon père était napolitain. Et m'a porté là à Naples à l'âge de 5 années. Je fais la première classe de petit, non,
oui.
élémentaire, comment dire.
Enfantine.
Enfantine. Et j'étais un génie pour le professeur, un génie. Après, mon père qui était employé dans une banque a été envoyé à une autre ville, oui. À Florence. Et mon professeur m'a défini un assassin. Pas un génie, j'étais un assassin de moi-même.
Moi, peut-être, je disais toujours, peut-être je me suis tombée amoureuse de ses défauts. Parce que autrement, on ne comprend pas. Mais c'était comme ça, c'était sa nature, ça ne pouvait pas. C'était plus fort que lui.
Et il a accepté aussi beaucoup de films commerciaux parce que c'était un grand joueur.
Vous savez
aussi.
une chose, je n'ai jamais vu, je ne savais même pas qu'il avait tourné des films comme ça. Parce que moi, je suis une femme que je ne demandais jamais où vas-tu ou qu'est-ce que tu fais et comme ça. Il me disait, je vais travailler. Bon, je croyais, comme il faisait toujours un film comme metteur en scène, après un film, il faisait tellement de choses. Alors, on ne pouvait pas suivre tout ça. Tu comprends? Parce que chaque jour, ça changeait. Et j'ai vu des choses dans la télévision que je n'ai jamais vues. Je coupe parce que c'est tellement mauvais. Des bêtises, des choses comme ça. Mais il les faisait pour gagner de l'argent, pour aller se les jouer.
Parce c'était un grand joueur.
Oui, ça on le sait.
Et c'était aussi un des rôles les plus beaux qu'il a interprété dans l'Ordre de Naples.
Ah oui, formidable, avec l'enfant. Ah oui. Oh, mais ça c'était vrai. Ça c'était vraiment un grand joueur. Ça c'est une maladie. Vous savez, j'étais tellement jeune quand je l'ai connu que je croyais de réussir à qu'il ne joue pas. Et j'ai réussi 4 années qu'il n'a pas joué. Peut-être c'est parce que c'est quand il m'a connu, tout de suite, il a connu Sabatini en même temps. Et alors, on commençait à faire de beaux films. Alors, il faisait de beaux films, moi je les faisais 2 enfants. Et c'était le moment formidable pour lui. Et alors, c'était 4 années. Il n'a jamais joué. Après que ça s'est tout rétabli bien, ça a commencé une autre fois, jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Il a joué, il a joué. Christian, mon fils, a chanté à Monte Carlo. On lui a donné comme cachet 1 million, je me rappelle, alors. Et lui, on avait joué tout, naturellement, il n'y avait pas un sou. Il m'a demandé de l'argent, je lui ai dit, je n'ai pas. Alors, il allait son fils, et son fils lui a donné les cachets. Et elle a joué ça avant de partir pour Rome. Ça, c'est son dernier jeu. Voilà.
Donc, c'était surtout les casinos, c'était Monte Carlo, on c'était connaît, Venise.
Moi, l'hôtel de Paris, pour moi, il était devenu ma maison. Et on était là. Mais on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire, parce que c'est une maladie terrible, terrible, terrible. Et si quelqu'un lui disait quelqu'un, il était comme furieux. Non, à part ça, vous savez, ça c'est son défaut, voilà.
Alors, il était aussi très superstitieux.
Oui, après ça passait parce que moi je ne suis pas superstitieux. Alors je lui disais, tu vois, ça ne sert à rien. Ça, c'est 34 années, à la fin, je lui ai passé un peu moins. Il était moins superstitieux. Non, il était terrible. J'ai dit, mais ça, c'est analphabète. Tu fais des choses de bêtises. On ne cherche pas la vie. C'est nous qu'on cherche, nous cherchons la vie. Pas cette, ça serait facile, non? Le viol, le violet porte mal. Alors, si tu détestes quelqu'un, tu lui mets le violet. Ce sont des bêtises. Et alors, là, oui, ça a changé un petit peu. Un petit peu.
Et avant d'aller jouer, je crois qu'à Naples, il plongeait une petite médaille dans...
On avait tellement de choses. Après, il l'a jeté par terre. Parce qu'après, un demi-heure perdait l'argent, alors il l'avait jeté. Terrible, c'était...
Rispondi! Ammettilo, devi dire sono fortunato, troppo fortunato, avanti, dillo!
No, non gli avevo.
Ma come non gli avevo? Generi, ammetto... Oh, finisce male, sai. Generi, mi sento? Parlo con te. Generi, bene, papà, rispunnasi. Come non sei fortunato. Tu vinci sempre. Ah, come ti ha da collare, signor Conte? Chi è guaglione? Deve qualche santo che l'aiuta.
Lo santo, ma tutti sante, te ne tutt'isso. Una fortuna mai vista. Federico, disgustoso, è per quello che urta, che si mette a fare il maestro. Vuol dare lezione a me, bestia presuntuosa.
E ce l'hai rovente, la giacca, gli occhiali.
Niente, ho perduto, è tutta la base.
Pour l'or de Naples, on a été très sévère, alors que par exemple, quand on regarde le sketch avec Edouard de Philippe, on voit toute la discrétion du Desica réalisateur devant ce monstre sacré du théâtre napolitain qui était Edouard de Philippe. Il y a là une très grande subtilité, finesse, délicatesse devant ce grand acteur et dramaturge.
Ah ben, il est évident que du fait qu'il était lui-même acteur, De Sica avait le respect des acteurs. Bon,
et... D'ailleurs, c'est peut-être un cinéma d'acteurs, surtout son cinéma. Parce qu'il avait, bon, au moment du néoralisme, il a pris des acteurs dans la rue et il a su les faire jouer comme des professionnels. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il a su faire jouer des professionnels avec la spontanéité de l'homme de la rue.
Absolument, sauf qu'effectivement, bon, à partir d'une certaine période, on ne prend plus des inconnus. Il fallait des vedettes. Mais ce que vous dites est parfaitement vrai. Le revers de la médaille pour les interprètes, l'ouvrier qui a joué dans Le voleur de bicyclette n'est jamais devenu un acteur parce qu'il a été tellement marqué par cette interprétation, je crois qu'il n'a pas réussi. Ben, peut-être qu'il en avait pas le tempérament parce que par ailleurs, dans Chucha, il y avait tout de même un jeune garçon qui s'appelait Franco Interlenghi et qui est devenu un des grands jeunes acteurs du cinéma par la suite.
Et comment il était donc avec les acteurs? Comment il les dirigeait?
Il le dirigeait très très bien. Il était
Louise Alessandri.
Patient avec les acteurs. C'est sans doute la chose meilleure qu'il savait faire, de diriger les acteurs. Souvent, il faisait lui les rôles, avec Sophia aussi. Et il faisait voir comme si elle doit muoversi, bouger et dire la battuta. Et avec les enfants aussi, il était formidable.
On dit par exemple que souvent il pouvait être assez cruel avec ses acteurs. Par exemple, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que pour faire pleurer l'enfant dans Voleur de bicyclette, il lui disait Ciccarolo. Alors, oui. Ciccarolo, c'est difficile de traduire ça en français. Oui, comment on pourrait dire?
On essayait avec des petites gifles et rien, il ne pleurait pas. Alors, les ouvriers, ce sont les ouvriers qui ont dit, mais c'est des sica. Dans sa poche, il faut mettre des chicques, des mégots. E poi voi deve lui dire, Enzo, ma tu sei un ciccaiolo. E gli rovesciava
le poche.
Allora, il plere. Je ne sais pas pourquoi, mais ça le mortificava terriblement.
C'est-à-dire que, bon, il faudrait expliquer ce que c'est que ciccaiolo en italien.
Quelqu'un qui ramasse les mégots.
Nous avons décrit le film avec une rigueur absolue des formes. La forme plus simple, plus ingénue. Vous avez vu les images de Voleur de bicyclette. Il y a des images où l'acrobatie cinématographique n'existe pas. Et seulement la représentation photographique d'un coin d'une rue, d'une scène quelconque dans la rue.
Ricci! Ricci! Andiamo de l'orno, ma che sei sorda, andiamo! Come se è possibile, io non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemare per tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ah, lì c'è il posto. Il posto. A tacchino. Per rappresentare il centro affissioni. Gli dai sta carta e ti porta il libretto. C'è niente per noi.
Mannaggia la miseria, oh.
E qua? Per noi. Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno.
E se io non sono tornitore devo seguire a stare qui a fare la muffa.
Oh, e che te vuoi, sfogare con me? Adì, ricordate di portare la bicicletta.
Le voleur de bicyclette, vous savez, c'est pas un film gentil, c'est un film terrible. On y voit le chômage, la difficulté de... quand on trouve un emploi, de pouvoir assumer cet emploi. Et on y voit l'humiliation d'un homme à qui on a volé sa bicyclette, bon, il vient de trouver du travail, on lui vole sa bicyclette puisqu'il faut une bicyclette pour être colleur d'affiche. Et puis on la lui vole et il est terrifié, il n'a plus rien, il s'en va avec son petit garçon et il cherche son voleur. Il trouve le voleur, que le voleur est plus misérable que lui. Et à la fin, il cherche à voler une bicyclette et c'est un homme, il se fait prendre. Je trouve que ce film, c'est terrible. C'est la réalité du prolétariat. Bon, évidemment, je sais pourquoi on a dit ça. D'abord, il faut parler de Zavattini. Bon, Zavattini était le scénariste, disons, préféré. Il a beaucoup travaillé avec De Sica. Il avait une vision humaniste des choses. Chez De Santis et dans une certaine mesure chez Rossellini, il y avait une réflexion, disons, plus politique, chez Castellani aussi, encore que là, ça demanderait être un peu révisé. De Sica, il est toujours bon, l'homme dans la société, mais l'homme avant tout, c'est-à-dire l'individu par rapport au contexte social. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé de gentillesse. Moi, je trouve que le film, que Le voleur de bicyclette, ça peut être un film tendre, si vous voulez, mais gentil, ça n'a... Non, c'est terrible. Bon, c'est-à-dire qu'évidemment, à la fin, on voit le gamin prendre la main de son père, qu'il a vu devant lui, humilié, arrêté, etc., qui est devenu un voleur par la force des choses, mais il le comprend, il lui prend la main, et on ne sait pas ce qui va leur arriver au point de vue matériel, mais là, il y a quelque chose qui passe entre eux, c'est très bouleversant.
Vous avez participé à ce film qui est devenu un mythe dans le cinéma, qui est Voleur de bicyclette.
Ah oui, oui, oui. J'ai tourné pour Rome. On dit tourné.
Je me suis baladée dans Rome.
Pour chercher les protagonistes. Parce que les Américains auraient fait les films si De Sica prendait Gary Grant. C'était absurde, non? Gary Grant, un ouvrier italien. Alors, il a trouvé de l'argent. C'était un monsieur qui a produit le film avec beaucoup peu d'argent. Et on devait chercher les protagonistes. Et moi, j'ai cherché partout. Et un jour est arrivée une femme avec une photographie d'un enfant, parce qu'on cherchait l'enfant aussi, avec son père. Et alors De Sica dit, non, l'enfant ne va pas bien, mais c'est le père qui va. Et c'était Maggiorani qui a fait le film.
Et comment s'est passé le tournage?
Mais très fatigant aussi, parce que dans la rue, on a tourné muet. N'avait pas les... Et moi, je devais avoir le compte de la pellicule, mouvre, comme on dit.
Faire bouger.
Faire les figurants et les dialogues, parce que c'était muet. C'était presque impossible. Et alors, pendant le montage, e on ha un po' ricostruito le dialoghi. E quando j'ai dit ça alla televisione italiana, Zavattini s'est offeso.
S'est vexé.
S'est vexé. Mais c'est parce que j'ai dit che on a ricostruito le dialoghi, ricostruire le dialoghi. Ma on l'a ricostruito toujours avec le scénario che lui aveva scritto. E De Sica était très, très fidèle au dialogue, allo scénario di Zavattini. S'il devait changer quelque chose, il lui téléphonait et lui demandait s'il était d'accord. Oui.
Et quel était le film auquel il était plus attaché?
Ah, lui, c'est Voleur de bicyclette et Umberto D. Surtout Umberto D, parce que c'était un peu l'histoire de son père. un petit peu.
Il avait repris le même nom d'ailleurs. Umberto, c'était le nom de son
oui,
père.
Oui, mais par hasard, non, c'était pas lui, c'est Zavattini. On croit ça, mais c'est pas vrai, c'était Zavattini. Mais lui, il pensait à son père, ça si.
Et il aurait peut-être voulu refaire un film, comme Umberto dit. Non, de cette force.
Oui,
cette...
oui, naturellement, oui. Parce que, vous savez, il était. Il commençait avec Chechara, et naturellement, après Sofia, ça durait beaucoup de films, je ne me rappelle pas, mais trois, quatre, une après l'autre. Et après, il a réussi encore à faire comme j'ai aimé, Fin si continue, parce que c'était un film jeune encore. Et après, non, après, il a fait les voyages. C'était... Ça a eu du succès aussi, mais. Oui, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait.
Mais je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de comprendre comment, à un moment donné, cet homme qui était connu en tant qu'acteur un peu léger arrive à réaliser des films en tant que metteur en scène néo-réaliste.
Oui, je sais, mais lui...
Vous pensez que c'est l'influence de Zavattini qui a été déterminante?
Ah, beaucoup. 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 Et lui, après, il pleurait, il disait toujours, j'admire Antonioni parce qu'il était fidèle. Toujours son image était sérieuse, il a fait ce qu'il a voulu, il n'a pas changé. Il avait ses remords, mais il ne pouvait pas parce que c'était son...
Sa nature?
Sa nature, d'être comme ça. Quand je l'ai connu, j'ai dit, avec notre rapport, je disais, tiens Manon Lescaut, c'est toi la femme. Parce que c'est ça, sa manière d'être. On ne peut pas changer les gens. Il faut aller avec lui, mais pas les changer. Tu ne peux pas changer. Et c'était sa charme d'être comme ça.
Et sa collaboration avec Cesare Zavattini, alors ça c'est une longue histoire. Enfin, ils ont travaillé ensemble pendant 30 ans au moins.
Probablement, De Sica qui n'écrivait pas avait besoin d'un écrivain et Zavattini avait besoin d'un metteur en geste. Moi, je l'appellerais un metteur en geste. Parce que c'est pas un grand styliste, De Sica, d'ailleurs Chaplin non plus. Mais c'est un acteur qui met en scène. Donc ce qui l'intéresse, c'est la justesse de ton et l'efficacité, le rythme, tout. Ce qui l'intéresse pas, l'appareil, le plan séquence, la recherche de style, le cadrage, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, il est efficace, c'est tout, l'efficacité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on filmait en 46-47. Je crois que donc, c'était plutôt un metteur en geste. Moi, je trouve que la force de De Sica, c'est la justesse de tout ce qui se passe devant la caméra. Le moindre détail est vrai et sa capacité de reconstituer à travers des petits détails quotidiens, restituer une grande tragédie. On a l'impression à la fin de Voleur de bicyclette, qui a une déchéance humaine. On lui vole la bicyclette, il perd petit à petit son travail, il part avec son fils, il est à la recherche de la bicyclette, il se heurte contre la banlieue, le Trastevere romain, il rencontre finalement le voleur, puis il se rend compte que le voleur c'est une victime pire que lui, thème classique de la littérature populiste, et puis finalement à la fin il décide de se venger, et alors c'est ce moment-là où il tombe, parce qu'on le prend, le met dans le sac, on l'humilie devant son fils, et à la fin, il se trouve vraiment, vraiment au bout du désespoir. Donc, c'est pas seulement le voleur, c'est pas seulement la bicyclette, le moyen de travail, c'est pas seulement ça. Il y a vraiment une construction très, très, très forte. Il y a même trois ou quatre actes dans ce film. Bon, à la fin, quand on voit ce garçon qui lui prend la main, lui serre la main, le garçon que jusqu'à un instant avant, il pleurait éperdument, il voit son père humilié, et il lui prend la main, on voit ce détail de la main, mais alors écoutez, c'est pas de style ça, on n'a pas l'impression que tout tombe autour de lui, et il s'éloigne comme ça dans une Rome où tout le monde s'éloigne, heureux du match de football, tous les autres en bicyclette, mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que De Sica est arrivé à donner des moments d'une telle intensité d'émotion, qui font de lui un très grand... Un très grand créateur, je ne veux pas dire cinéaste, styliste ou pas, c'est un très grand créateur, mais dans Umberto D, Je ne sais pas, moi je défie n'importe qui à ne pas sortir en sanglots après avoir vu la tentative de suicide, par exemple, préparée d'une façon admirable. Je ne sais pas pourquoi on devrait admirer les passages de train, le suicide de l'inconnu du Nord Express et ne pas être touché par la force avec laquelle, avec très peu de moyens, De Sica arrive à nous donner la tragédie de la tentative de suicide et la renaissance de l'espoir de cet homme.
Pendant des mois, j'allais au bureau où paye les pensions.
Les retraites.
Je ne trouvais pas personne. Et puis, les vieilles ne sont pas très sympathiques. Elles me répondaient mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis un directeur. Et elles s'offendaient presque. Un jour, j'étais désormais désespérée. Et je vais un monsieur qui marche molto in fretta,
très vite.
Et on va l'arrêter et il me dit que c'est un professeur d'université de Florence et qui était ici pour donner des examens à l'université. Et quand j'ai senti ça, au contraire, il était enthousiaste. Et je parlais avec De Sica, et le soir à 7h, il faisait déjà le provino. Et c'était lui.
Mm-hmm. C'était ce personnage magnifique.
Magnifique, oui. C'était un homme très intelligent, très, très gentil, mais j'ai rappelé par toute la vie les derniers jours de travail. Et c'était quand il veut se suicider avec les petits chiens. Et vous avez vu le film? Alors, on était dans un passage à niveau.
Passage à niveau.
À niveau. Et on avait l'horaire de tous les rapides qui passaient. Et alors, on prenait le professeur, un ouvrier tenait le professeur et le train passait, mais très, très près. C'était toute la troupe était comme ça parce qu'il pouvait mourir. C'était suffisant, quelque chose qui sortait du train, qu'il l'aurait agganché,
accroché.
Et l'opérateur, qui était très bravo, c'était Aldo, non, ne s'accontentait pas de trois, mais chaque rapide, il voulait tourner de nouveau. Toute la troupe était vraiment disperata, parce que cet homme rischiava la vita. Alla fine, le chien scappa e lui renonce a se suicider pour aller avec le chien. E le finale, c'était un peu alla Charlot. C'est un grand viale, comme si dice?
Boulevard.
Boulevard, mais dans la campagne. Et le professeur marche avec les petits chiens qui font des saltini. Quoi.
Qui sautillent.
Derrière lui. Et De Sica avait dit, nous donnons-lui à manger à les chiens. Comme ça, le professeur aura de la
viande
dans la main et le cane, les chiens, va sauter. Naturellement, il y a ça, toujours quelqu'un qui dit « pauvre chien !» À lui a donné de manger, ce chien ne sautait pas.
Je crois que c'était le film que De Sica préférait, peut-être.
Oui, parce que c'était pour dédié à son père, oui.
Like. Like. Viens ici, regarde là-bas. Viens ici. Viens, regarde, Flake. C'est le beau. Allez, viens. Viens, Flake. Et voilà, Flake. Flake, allez. Hop. Hop. Bravo, Flake. Bravo. Bravo. Bravo.
Je me souviens d'un jugement de Dino Risi, mais De Sica, est, même dans ses défauts, il est bien. Parce qu'il a toujours une générosité, un style, il parle comme acteur aussi, cette noblesse ironique et très très tendre des Néapolitains, cette fantaisie, cette envergure. Tout le monde reconnaît à De Sica son talent d'acteur, sauf les critiques qui ne se souviennent pas. Et puis, comme réalisateur, écoutez, quelqu'un qui a fait, I bambini ci guardano, les enfants nous regardent, qui a fait ces 3-4 comédies dans le style clair, entre Clair et Lubitsch des années 40, 42, 43. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pouvait faire à l'époque, sinon des jolies comédies très brillante et très, très humaine déjà. La caractéristique, c'est cette humanité. Et puis, il démarre avec Chucha. Orson Welles disait c'est le plus grand film du monde d'après-guerre. Bon, peut-être il s'est trompé, Orson Welles. Les critiques français sont peut-être plus aiguës. Mais Voleur de bicyclette, que tout le monde considère comme un film. Je me souviens, Valerio Zurlini disait, mais quand on voit ça, on reçoit un coup sur la tête, on sort, on ne sait plus où on va. N'a pas vieilli de rien. La sensibilité dans le vol des bicyclettes, parce qu'il y a un enfant et un parent. Mais alors, que devrions-nous dire du plus grand imitateur de De Sica, qui est Comencini, qui en France est considéré un maître, et moi aussi je le considère un maître, mais un maître à côté de De Sica, peut-être un peu plus bas, mais et finalement, l'élève est devenu plus important que le maître. Je comprends pas. Umberto D. Bon, Umberto D, dont un des génies du cinéma contemporain, Alain René, dit que c'est un des films les plus beaux qu'il a jamais vu, qu'il voudrait projeter dans une rétrospective contemporaine. D'ailleurs, je me souviens qu'Alain René, qui est venu à Florence récemment au Festival du cinéma français, et à une journaliste du Figaro, Marine Altranchamp, a dit, mais plutôt que me consacrer à moi des rétrospectives, pourquoi ne consacre-t-on pas des rétrospectives à Vittorio De Sica? J'aimerais voir consacrer une rétrospective à Vittorio De Sica. On a négligé à tort certains de ses films. Bon, je pourrais multiplier les citations. Umberto D, c'est le film existentialiste par excellence, c'est plus le néoréalisme. Néoréalisme, ça veut dire quoi? Bon, restons, soyons sérieux. C'est une époque dans laquelle certains cinéastes faisaient des films en prise directe avec la réalité, mais peut-être il y a un seul film néoréaliste, c'est Paisa de Rossellini, les autres sont déjà travaillés sur des scénarios. Rome ville ouverte, c'est déjà à l'époque, c'était épané sur un fait divers. Stromboli et les autres sont déjà plus néoréalistes. Bon, De Sica n'a peut-être jamais fait un film néoréaliste en sens strict, même s'il prenait des acteurs dans la rue. C'était l'accumulation des petits détails qui faisaient la grande tragédie, c'était le style un peu de néoréalisme. Mais disons, Umberto D, c'est le premier film d'Antonioni. Mais est-ce que les gens ne s'en rendent pas compte? C'est déjà le cri d'Antonioni, c'est anticipé. D'accord, il n'y a pas les plans séquences, mais ça veut dire quoi? Disons, il n'y a rien de dramatisé. Tout est dédramatisé, ce qui ne signifie pas que soit bien dédramatisé, ça dépend le résultat. Mais disons, c'est un film sec, un film très, très antonionien dans l'inquiétude, dans les dépouillements, qu'est-ce qu'il y a encore de néoréaliste là-dessus? Bon, c'est un film qui anticipe sur le futur.
Celui qui a été essentiellement la cible des critiques, surtout en Italie d'ailleurs, mais il n'a pas été très bien accueilli non plus en France, c'est Miracle à Milan. Parce que on a ce personnage, qui est un personnage de conte de fées, qu'on appelle Toto le Bon, Toto il Buono, qui est un peu comme le Candide de Voltaire chez nous, bon, qui pense peut-être pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais que vraiment tout s'arrange avec la gentillesse. Et effectivement, Toto est un personnage gentil qui veut faire plaisir à tout le monde, mais son expérience ne se révèle pas tellement positive. Miracle à Milan est un film en plus qui a été accusé de communisme, ce qui est de propagande communiste, parce qu'on était allé en Italie toujours jusqu'à repérer quand à la fin tous les clochards, les mendiants, les pauvres pourchassés par la police s'envolent sur des balais de la place du Duomo à Milano. On a dit qu'ils s'en allaient vers l'est. On avait, je sais pas à quoi on a repéré ça, étant donné que c'était un trucage. Donc ils s'en allaient vers la patrie du socialisme. Et on était en pleine guerre froide et toutes les bêtises étaient possibles, toutes les interprétations. Je pense que c'est pas ça du tout. La gentillesse de Sica, pour moi, d'abord, je trouve que c'est pas le terme exact. Je dirais son humanité. Ça me paraît beaucoup plus juste. Sa poésie. Ça a toujours été. Est-ce que ça tient ça aussi à ses origines napolitaines, à ce fait que les Napolitains sont des gens beaucoup plus en contact avec, à la fois avec une réalité très dure et avec une sorte de folklore, folklore au sens le plus noble du terme, enfin une mythologie très du spectacle, des rapports humains. Je ne sais pas, moi je suis pas italien, bon, je sais que tous ces films m'ont passionné, me passionnent toujours. J'ai revu Miracle à Milan il y a 2 ans maintenant, au festival d'Annecy, ça a été presque une redécouverte et pourtant je le connaissais bien.
On a oublié entre-temps l'admirable Miracle à Milan de 51 qui est le néoréalisme qui devient fable, où à la fin les gens s'en vont, comme dans un conte de Walt Disney, ils volent sur le dôme de Milan. Et pas du tout, je vois pas du tout Sensiblerie, je vois pas du tout Niaiserie là-dedans, c'est de la pure, c'est un conte cruel sur la misère, sur l'exploitation, sur le désespoir. On ne peut plus avoir d'espoir sur les patrons après avoir vu ce film.
C'était très intéressant, fatigant aussi, terriblement. On avait affaire avec ces clochards qui sont vraiment des gens incroyables. Sporc, si ubriacavano. Ils se
saoulaient.
Se ubriacavano.
Oui, ils se saoulaient.
Ils se saoulaient. Et pendant les mois de primavera, le printemps, c'était terrible. Mais ils ont travaillé très, très bien. Ils ont fait des choses incroyables. Et ces gens bravissimi. Les personnages des films sont des fous comme sont eux dans la réalité.
fa 5x5?
Angelo Stefan.
E voi quanto fa 3x3?
Mais vous savez, je vois dans l'année 1953, par exemple, bon, il tourne quelque chose qui l'a rendu très, encore plus célèbre. C'est peint Amour et Fantaisie de Luigi Comencini, dont, entre parenthèses, on a dit en France, c'est une trahison du néo-réalisme, sans comprendre qu'il s'agissait de comédie italienne, parce que la comédie italienne, on ne savait pas ce que c'était. Bon, c'est comme ça. Ce rôle du maréchal des logis, amoureux du personnage interprété par Gina Lollobrigida, il l'a fait plusieurs fois. Il y a eu trois films, ou peut-être bien quatre. Mais la même année, il joue dans Madame 2, le deuxième rôle masculin, avec Daniel Dario et Charles Boyer, il est absolument admirable. Donc, je veux dire, moi, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a une différence de rôle, mais il n'y a pas de différence de qualité entre ce De Sica très grave, très épris de Madame 2 et le maréchal des logis exubérant, coq de village et tout ce que vous voulez de Pain, Amour et Fantaisie, qui ont été tournés donc la même année. C'est vraiment le très grand acteur qu'on reverra dans des bouts de scène, quelquefois dans d'autres rôles importants. Jusqu'à sa mort, il n'a pas arrêté.
Chi di voi ha mai inteso questo nome? Frina era una donna greca. Frina era Maria Antonia, perché Frina era la bellezza stessa. Esce fuori, Maria Antonia, esce fuori. Scusate. Iperide, un mio illustre predecessore, così la condusse al centro dell'Areopago, che doveva giudicarla per delitti di fronte ai quali quello di Maria Antonia diventa un gioco da ragazzi. Sagna Goppo, Maria Antonia, guardatela. Guardatela! E sapete come il grande Iperide la difesa di fronte ai grandi Ariasti? Una sola tunica. Una sola tunica! Nascondeva le stupende forme di quella meravigliosa creatura alla vista dei giudici. Una sola! Mi segui, Presidente?
Niente.
Ed egli d'un sol colpo la strappò, così.
On parlait tout à l'heure de l'importance de Vittorio De Sica, acteur. Je crois qu'à côté de Toto, vous appelez comme ça, Toto, pas Toto il buono, le personnage de Miracle à Milan, hein. Toto l'acteur, le grand comique napolitain, et De Sica aussi est né près de Naples, et je pense que son contemporain avec Toto, c'est ces deux acteurs-là qui ont donné ces lettres de noblesse à la comédie italienne, soit, surtout comme acteur à partir de 50. De Sica l'avait déjà fait aussi, avait continué la tradition de la comédie un peu classique, un peu à la Lubitsch et à la Camerini à partir de 39, 40, 41, parce qu'il a commencé, il a fait 5-6 comédies à l'époque qui n'ont pas été vues en France probablement. C'est un peu dommage. Mais surtout plus tard, je trouve qu'il avait une force comme acteur, une roublardise, une capacité de... Entre Chevalier et Jean Gabin, je ne sais pas, j'ai un peu cette impression-là. Peut-être les deux, on voit mal comme l'élégance de Chevalier et la force, la racine, le côté populaire de Jean Gabin. Et ça est resté, comme je disais tout à l'heure, Dino Risi, qui est quand même un des maîtres de la comédie italienne, a accepté tranquillement l'idée que De Sica avait été un peu le père fondateur de la comédie italienne, que peut-être nous les Italiens, nous avons été les premiers à mépriser. Mais comme personnage, je disais encore une chose, donc l'importance de Sica comme personnage, c'est quand même le seul grand acteur, grand cinéaste. En Italie, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Toto n'a pas fait de film, mais Pasolini n'a pas fait ni Antonioni, ni Visconti, ni Rossellini ont fait ni Castellani, ni, seulement Germi. Pietro Germi était aussi acteur dans ses propres films. Mais donc, le fait qu'il cumulait les deux choses, d'où peut-être la comparaison avec Chaplin, mais pas dû simplement à ce détail, aussi à l'humanité, à l'insistance sur l'humanité, à un manque apparent de style, bon, on reviendra là-dessus, ça, le fait qu'il était deux personnes à la fois, donne à cette figure une importance énorme, incontournable. Il faudrait faire un monument à Vittorio De Sica.
Bon, avant tout, je dirais, Vittorio De Sica, du moment donné que je suis si sévère comme metteur en scène, je dirais à Vittorio De Sica d'être plus naturel, plus sincère, plus simple. Quand je joue comme acteur, je suis un peu construit. Et quelquefois, je ne suis pas sincère, pas simple. Et alors, je donnerai à De Sica ce conseil d'être plus sincère et de ne pas penser à la mode, à la photographie, d'être un homme photogénique, la lumière ici, la lumière là. Je conseillerais De Sica de ne pas être un imbécile, mais d'être un acteur intelligent.
Brigadiere Squinzi, uscente.
Maresciallo maggiore, caro tenuto, piacere.
Piacere.
Vice brigadiere Bolognini.
Maresciallo maggiore, caro tenuto, piacere.
Piacere.
Appuntato San Pieri Giuseppe, raffermato.
Maresciallo maggiore, caro tenuto, piacere.
Piacere. Je préfère la mise en scène, parce que, je vous dis tout de suite, la mise en scène est création. Et l'acteur est exécution. Le metteur en scène est sa majesté, le maître d'un film. Tout dépend de lui. Et il y a le ciseau, par exemple, dans les montages d'un film, qui peut abîmer le travail d'un acteur. Un mauvais metteur en scène peut abîmer absolument le travail d'un bon acteur. Le bon metteur en scène suivit la personnalité d'un acteur. Quand un metteur en scène se détache de la personnalité de la Terre joue très, très, très mal. Je crois que dans la représentation dramatique d'une œuvre dramatique, est très important les physiques du rôle. Par exemple, je n'ai pas trouvé dans les acteurs italiens un acteur qui puisse jouer le rôle de l'ouvrier dans mon voleur de bicyclette. Alors, que je pourrais faire? J'ai trouvé une physique du rôle, j'ai trouvé un ouvrier. Nos acteurs sont trop peu. Nous avons une très bonne acteur, mais hélas, nous n'avons pas beaucoup. En France, il y a une théorie d'acteurs énorme, parce que nous avons une théorie d'actrices et d'acteurs. Vous avez beaucoup de figurants. Rému a été un figurant merveilleux, un acteur merveilleux. Et en Italie, nous avons Zacconi, il est mort. Ruggero Ruggeri, qui maintenant joue ici à Paris, c'est un vieux de 82 ans, il est trop vieux. Et après, nous avons 3, 4, 5 bons acteurs et 4, 5 bonnes actrices. Alors, je les trouve dans la rue et je ferme la personne dans la rue et je lui demande, voulez-vous faire du cinéma? Et quelqu'un accepte, quelqu'un me regarde comme un fou, mais ceux qui acceptent, vient là et devient le personnage de mon film. Et c'est un matériel grezzo, comme on dit en italien, grezzo, pur, sans métier. Le métier est abîmé un peu, le naturel d'un personnage, oui, abîmé un peu, le métier. Alors ces gens-là n'ont pas de métier, alors le metteur en scène peut travailler avec une matière si pure et si sincère.
Mais ça y est, t'ho fatto l'ora.
Non, poco.
Mi dispiace.
Niente.
Sono passato da casa tua, non c'era nessuno.
E tutta la famiglia fa il pellegrinaggio a Sant'Antonio.
Ah già, me l'hai detto. E non hai paura di stare sola sola?
Oh, sta tranquillo che nessuno mi sa ruba.
E che io stavo una bella guaglione come a te di notte, sola sola. L'occasione fa l'uomo ladro.
E mettimi un carabiniere per sentinella.
Bessaglie, ti pigli in parola, eh?
E pigliami.
E proprio stanotte ti metto la sentinella.
Grazie signori. Oh, Sant'Antonio, pure questo ci mancava.
Che è successo?
Un vestito di mamma.
La chiappa.
Oddio.
La chiappa.
Oh. Chiaro. Eccolo.
Uè. E di chi?
E si è bagnato, mi dispiace.
Mezzo bagno, mi ha fatto quasi bene.
Beh, mo vattene che me devo asciugare.
Anche io m'aggio asciugare, io non c'ero.
Vattene all'ubocca.
Quant à De Sica, il y a toujours eu pour lui, de toute façon, une cote d'amour, même si les critiques français n'aimaient pas beaucoup ces films à partir de 1960. Un film où paraissait De Sica, où il suffisait qu'il soit acteur, il a toujours été extrêmement populaire, il l'est resté jusqu'au bout. Et bon, les derniers films, enfin Le Jardin des Fizzi Contini et Le Voyage sont pour moi de très beaux films. Bon, on ne pouvait pas demander non plus à un réalisateur comme De Sica de nous refaire toujours Chucha et le voleur de bicyclette, il ne faut pas rêver. Bon... Bon, c'était autre chose, c'était quelqu'un qui avait changé, le cinéma avait changé, le pays, Dieu merci, avait changé. Moi, je pense que cette trajectoire à travers l'histoire italienne, enfin, il a commencé, si j'ai bonne mémoire, de tourner, d'être acteur en 1930.
Oh, c'est comme, avant, il a commencé avant, en 22.
À côté
de Francesca Bertini, qui était la diva.
Qui était une des divas. Bon, vous voyez, ça, c'est un point qui m'avait échappé. Bon, enfin, disons, depuis Le Parlant jusqu'à la fin des années 60, bon, De Sica est une figure dominante du cinéma italien, point. Bon, je veux dire, quant au film comme réalisateur, on peut trier, mais je crois pas qu'on puisse refuser certaines choses en bloc. Je crois qu'il faut de toute façon les réexaminer. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas... Il y a quelques films qui ne sont pas de très grands films, mais enfin, bon...
Aux années 60, qu'est-ce que De Sica cherche ailleurs? Il adapte, par exemple, un de trois ou quatre bons romans de Moravia, la Ciociara, il lance, par exemple, la Sophia Loren. Et plus tard, il lancera la coupe Sophia Loren avec Ieri, Oggi e Domani, divorce à l'italienne, non, adultère à l'italienne, je me souviens, mariage à l'italienne. Avec les titres, on ne s'en prend plus. Bon, et plus
avec
Mastroianni. Et des films qui sont très appréciés en Amérique, qui lui donnent beaucoup de succès en Amérique, et qui sont de moins en moins appréciés par les critiques ici. Et puis, il y a le retour avec Le Jardin di Finzi Contini, le Jardin de Finzi Contini, inspiré sur les Juifs, une déportation de Juifs à Ferrara, qui est un film tout à fait remarquable. Plus tard, il s'est même lancé dans des comédies méchantes, par exemple, Le Boom. Avec l'histoire du jeune sordi qui, pour payer des dettes, il, à la fin, il se laisse entraîner à donner son œil à son patron, comme ça, son créancier, comme ça. C'est un sujet de Zavattini très, très dur contre le boom économique italien de l'époque, le faux boom économique italien.
On lui reproche peut-être d'une certaine façon de ne pas être assez intellectuel, de ne pas avoir assez théorisé son cinéma. D'ailleurs, De Sica disait lui-même, je n'ai pas la prétention de me considérer un réalisateur.
Mais est-ce que Marcel Pagnol, c'est pas exactement la même chose? Bon, Marcel Pagnol n'était pas un acteur, était un écrivain. Mais quand il fait la trilogie, quand il fait La femme du boulanger, un des films les plus, probablement un des trois films français les plus nouveaux, les plus inoubliables de toute l'histoire du cinéma français. Orson Welles le disait lui aussi, mais Revu aujourd'hui, c'est... Bon, moi, je trouve, chez Revu, récemment, c'est un pur hasard, je ne veux pas théoriser là-dessus, Chucha et La femme du boulanger. Et par hasard, je mélangeais les choses. C'est le miracle que nous permet la vidéothèque d'aujourd'hui. Et moi, j'ai retrouvé une authenticité dans les dialogues, dans les comportements, dans les gestes, ce que les Français appellent le naturel, qu'ils cherchent parfois dans le nouveau naturel, mais aujourd'hui n'existe pas tellement. On s'efforce de les recréer, mais c'est très difficile. Il y a parfois ces pieds-là, le naturel. Mais cette force d'observation de la réalité, les gestes tout authentiques, la choralité, le fait qu'ils sont tous bons, sont tous excellents, et il y a rien à couper, tout est vrai, un rythme du montage, l'accent dialectal qui est capital dans les films de De Sica, et les Français adorent d'ailleurs... les sons, la façon de parler, la prise directe du son. Bon, les Italiens ne font pas la prise directe du son, mais pas toujours, pas à cette époque-là en tout cas. Mais il y a toutes ces qualités, disons un seul mot, cette humanité, je ne trouve pas l'adjectif, qui vous serre le cœur, qu'on trouve chez les grands, chez Chaplin, et chez sans autres, disons, grands cinéastes. Moi, je trouve que Certains critiques parisiens acceptent, que d'ailleurs j'adore, on est ami avec tout le monde, mais ils acceptent plus facilement le naturel des Américains, Minelli et compagnie, et n'acceptent pas ce naturel qui est beaucoup plus lié aux racines de leur même littérature, parce que le naturalisme est né en France. Moi, je pourrais presque me lancer à dire que les qualités de De Sica, les meilleures qualités de De Sica sont les meilleures qualités de Marcel Pagnol. Alors, chapeau.
La signora dica al maestro, state zitto, questa è una carogna, fa spia.
A piede, fianco sinistro, avanti, marcia, no, dietro, no, dietro, no, dietro.
Ma non si può mangiare sta roba.
Si può.
Che? Hanno portato via, lo sapevo.
Guardate là.
Che è successo? Che t'hanno fatto?
Mi va male la vela, mi hanno menato quello grande.
Dove sono andati?
E chi ne so, dove lui vuole vedere il cavallo. Dicevano che era di loro. Mi va male la vela, mi hanno lucrato. Quello più grande.
Vittorio De Sica. Une émission de Francesca Isidori. Avec Maria Mercader, Luisa Alessandri, Jacques Siclier, Aldo Tassone et la voix de Vittorio De Sica. Mixage, Bernard Charon. Réalisation, Jacques Taroni. Document INA, Yves Builly.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 mai 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.